Aujourd'hui, je reçois notre mairesse, Mme Boulanger. Bonjour, Mme la mairesse.
Bonjour, François.
Avant de parler de la dernière séance publique du Conseil, revenons au mois de décembre, si vous le voulez bien, avec cette annonce qui a semblé soudaine là, d'un éventuel traversier, une navette fluviale qui viendrait ici à Lille. J'aimerais vous entendre, parce qu'on a entendu Maggie Richard, notre préfète, à ce propos-là, je l'ai eu en entrevue. Elle nous a révélé qu'une annonce est imminente quant à la faisabilité du projet. Là, il y a eu une étude qui a été menée pour voir la rentabilité éventuelle de ce projet-là. Mais qu'en est-il du projet du point de vue du conseil municipal ici à Anticosti?
Des études, c'est des nécessités pour être capable, lorsqu'on vient pour réclamer dans un projet des aides financières gouvernementales, ben, faut être appuyé par une étude.
Ouais.
Parce que sinon, tu sais, si je dis ça va coûter 72 millions de dollars,
ben, pourquoi je te donnerais ben,
pourquoi
ça?
Je te si donnerais ça?
Faut
l'éclater, puis c'est les études qui vont faire ça par des expertises. Alors, eux, ce qu'ils faisaient, c'est d'annoncer qu'ils allaient bientôt donner les résultats de cette étude-là. J'y ramène un petit peu incomparable, si on peut dire, avec la traverse qui devrait... Il y a des gens présentement là, qui s'occupent de ça, Mme Micheline Anctil, Rimouski, Forestville. Eh bien, on a vu dans les actualités dernièrement qu'ils n'avaient pas fait, eux, leur étude. Bien, faut qu'ils refassent le chemin, il faut qu'ils repartent de ça, parce que puis ça fait des délais, mais on ne peut pas avancer dans un dossier si on n'a pas d'études qui sont associées pour appuyer les coûts. Ce que ça donne, c'est quand même l'apparence d'une chose qui est réelle, c'est que c'est un projet qui est régional. Ce n'est pas un projet local de la municipalité de l'Anticosti. Alors, on en fait partie, on est partie prenante, le conseil est au courant. Je fais partie de toutes les activités là, qui sont en cours pour ce sujet-là. Alors, le port de Havre-Saint-Pierre est le porteur. Puis, Maggie, qui est la préfète régionale, elle s'implique vraiment dans le dossier du point de vue politique. Fait que ça, c'est tout à fait de bon augure. Là. En fait, il annonçait qu'il allait divulguer là, le résultat de l'étude. Pas que ça allait se faire demain matin. Puis, on l'a bien compris dans ton entrevue aussi.
Ouais.
Là. Ça, c'était très clair. Il va y avoir des délais. Moi, mon rôle au niveau du conseil puis de la municipalité, c'est de démontrer qu'on n'est pas prêt à recevoir ça. Fait que si eux se servent d'Anticosti comme levier pour leur projet, ce qui est une bonne chose, bien nous, on se sert de leur projet comme levier pour démontrer le besoin ici, local et non pas régional, mais localement, on a besoin d'aide financière. C'est des choses qui vont être étalées sur des années. Fait que ça, je veux sécuriser les gens à ce niveau-là.
En fait, c'est assez intelligent. C'est-à-dire que si ces gens-là veulent développer la fameuse navette. Nous, pour qu'on reçoive une navette comme ça, puis 150 à 200 personnes par jour, il y a des choses qui ont besoin de changer ici, dans notre capacité de recevoir des gens, dans notre capacité d'avoir un réseau d'aqueduc et d'égout. Bref, il y a plein de choses. Et c'est là que vous dites, justement, ben regardez, si on veut aboutir avec le projet de navette, il y a des étapes avant ici à concrétiser à Lille.
Exactement. La visibilité, là, c'est pas par la mairesse de l'île d'Anticosti, c'est par ces gens-là qui prennent le dossier. Parce que moi, c'est pas moi qui vais m'occuper là, d'aller chercher les millions de dollars pour refaire le quai et tout ça. C'est eux qui donnent la démonstration. C'est dans cette étude-là que tout a été analysé puis déposé. Pour ce sujet-là, je termine en disant que s'il y a des gens que ça sème des inquiétudes, et je le répète, parce que moi, je le répète lorsque je fais la représentation, il y a un service essentiel qui est rendu par le Bella des Gagnés, qui est une nécessité. Si à un moment donné, des gens locaux voudraient, en pensant que dans quelques années, il y aurait un service d'une navette, puis s'approvisionner en passant, en se rendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre, bien, ce serait par choix, parce qu'il n'y aura jamais lieu de remettre en question le service du Bella des Gagnés. C'est une priorité. Le cargo par le Bella des Gagnés, qui fait aussi là, du passager, là. Ce service-là là, n'est absolument pas mis en cause. Il va être là, puis il va demeurer là.
C'est ça. Ça, c'est maintenu. Oui. Si jamais la navette fluviale voit le jour, ce sera une façon supplémentaire de désenclaver l'île pour du transport d'humains ou de touristes, mais ça ne remplacera pas le Bella.
Pas du tout.
En ce qui a trait à la dernière session du Conseil, il a été question d'activités sociales, Mme la mairesse.
On met des choses en place. Le centre d'accueil municipal sert à ça aussi, là. Ça fait que donc, on a vu passer qu'il va y avoir des activités qui vont revenir à toutes les semaines là, avec
le cornhole
là, par comité de loisirs. Ça fait que donc, ça c'est excellent. Puis je pense que la population souhaite avoir quelque chose pour les rassembler, socialiser et s'amuser. Là. Que je pense que ça, ça va être très fort. Je souhaite qu'il y ait une belle réponse face à ça. Puis je pense que oui, ça va être une façon là, de pouvoir se regrouper et s'amuser. Ça fait qu'il y a cette activité-là qui est bien lancée. Mais il y a aussi, dans les façons d'agir d'une façon communautaire, on n'a pas d'agenda de développement pour le communautaire, des choses comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on participe. L'insulaire, Anne-Marie fait beaucoup d'activités avec les gens, qu'elle publicise ça beaucoup. C'est très populaire, ça fonctionne. Mais il y a des coûts, là, que ça engage des coûts, tout ça. Ça fait que c'est pour nous notre façon de participer là, en faisant
une contribution.
Là. Elle reçoit 6 000 pour l'année pour être capable d'exercer ces activités-là. Parce que elle, ça y génère des coûts, elle a des achats à faire, puis tout le monde a besoin de payer son électricité puis sa location et tout ça. Fait qu'on a une participation aussi là, avec l'insulaire.
Oui, puis je pense pas que ce soit un centre de profit pour Anne-Marie. L'insulaire, on le sait qu'elle met beaucoup de temps et d'argent.
Oui,
là-dedans.
Oui,
c'est correct de l'aider aussi. Là.
Si on comptait toutes ces heures de bénévolat, on pourrait pas payer toute la valeur que ça peut représenter.
Absolument.
C'est énorme.
Autre point intéressant, Mme Boulanger, la municipalité acquiert des terrains.
Entre autres, on a fait l'acquisition de l'eau. Ça a été un travail de longue haleine. Il y a des années, là, ça avait été proposé, ça, cette chose-là, ces échanges-là entre le ministère des Ressources naturelles et la municipalité, mais ils voulaient le vendre à un coût de 50 000 $ qui était quand même minimal pour la valeur, la grandeur du terrain. Sauf que ça avait été laissé comme ça en suspens. Ça n'a jamais été retravaillé. Le ministère avait relancé, mais il n'y avait pas eu de réponse. On a repris le dossier. Je dirais que ça a pu s'étaler sur 2 ans. Et ça, c'est quand tout le monde est d'accord.
Ouais.
Tout le monde était consentant. Ça fait que des fois, à la table des partenaires, il y avait des gens, des ministères concernés. Là. Et c'est avec grand plaisir là, que j'annonce que nous allons notarier les terrains, là, de devenir propriétaire de ces lots-là. Puis on va les situer sur la rue Meunier, directement en face des terrains qui ont été mis à disposition en 2025. Là, les 11 terrains qui ont été vendus pour construction, c'est de l'autre côté de la rue, toujours sur la rue Meunier. Alors, il y a ceux qui bordent la rue, mais les lots aussi là, vont faire que dans l'avenir, si la construction se développe comme on peut le souhaiter, ben il y aurait aussi une autre rue qu'on pourrait faire. On a assez de terrain là, pour en faire une autre, avec d'autres lots qui se rendraient jusqu'à la partie construisible là, en allant vers la mer. Fait que ça, c'est acquis.
Je pense que ça peut représenter à peu près combien de terrains? Je comprends que ça n'a pas été parfaitement lotissé, là, mais une dizaine de terrains, moins que ça?
8-9 terrains, peut-être. Okay. C'est pas la même largeur que ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Là. C'est pas la même dimension. Mais 8 ou 9 terrains. Terrains-là ont été, c'est des sessions gratuites. Là, ce qu'on va faire, c'est ça, là, aller passer chez notaire, puis après ça, lotir cette partie-là. Puis après, c'est la première phase, si je peux dire. Fait qu'on va commencer par ça.
Tu veux dire qu'éventuellement, il y aura des terrains mis en vente, pas forcément à court terme, mais éventuellement, donc, il y aura ces terrains-là qui pourront s'ajouter pour du développement.
Il y en a d'autres, parce qu'on fait d'une pierre deux coups. On a pris plus grand qu'on ne va pas tout traiter d'un coup, mais si le développement se maintient, ben on en aura déjà de disponibles pour refaire le processus des mises en vente tel qu'on a fait l'année dernière. Fait que là, la prochaine vague, est-ce qu'elle va se conclure dans l'année? Ce serait souhaitable, mais comme je dis souvent, on énonce ça d'une façon rapide, mais chacun de ces dossiers-là, ça demande un espace-temps qui est considérable. Alors, on peut comprendre que quand on met beaucoup de choses en place, est-ce qu'on le réalise dans un an ou l'année suivante? Des fois, on peut comprendre là, pourquoi il y a des délais. Là.
2026 ou 2027?
On va souhaiter 2026, puis sinon, c'est ça, comme on dit. Là, 2027 est encore là, on y sera.
Autre point, Mme Boulanger, il y avait celui de l'utilisation d'un territoire public parce que vous avez un projet de réaliser une nouveauté à Lille.
Pour faire un éco-centre. C'est quoi un éco-centre? À quoi ça sert? En fait, ça sert à c'est visé pour faire de la collecte sélective. C'est des déchets domestiques qui sont les encombrants, les toxiques, dangereux, les résidus organiques. Et le but, bien, c'est d'encourager le réemploi, le recyclage et la valorisation. Fait que donc, les études de caractérisation ont été faites, c'est compatible, on fait le procédé à chercher ces terrains-là.
Il fallait s'assurer que les terrains sont aptes à recevoir un éco-centre, puis on veut aller bâtir un éco-centre éventuellement.
Oui, parce que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tout quand on demande des terrains, il faut démontrer quel est le but, qu'est-ce qu'on va en faire. Puis les terrains là, pour lesquels on vient d'avoir une session, quand je dis ça a pris 2 ans, il y a eu encore une étude sur le logement pour démontrer toutes les difficultés qu'on peut avoir là, face au logement. Fait qu'il faut toujours faire la démonstration du but, pour faire la preuve de comment la démarche là, pour ça.
C'est comme un jeu de blocs, hein, votre histoire. C'est qu'à chaque fois que vous voulez avancer à gauche, il faut que ça monte à droite en parallèle aussi. Ouais. Que ce soit pour bâtir des maisons, il faut que vous ayez la capacité, les autorisations pour vous brancher. Là, si on prend de la croissance, ça va prendre éventuellement un éco-centre parce qu'il faut faire de la gestion et non plus simplement domper les affaires. Il faut essayer de les ramener à la vie, de leur donner une deuxième vie. C'est nouveau par rapport à ce qu'on faisait il y a 50 ans. Les règles ont changé.
Les règles ont changé, tu l'as bien dit. Puis à un moment donné, les affaires municipales ont énormément changé. Les normes ont changé. Le niveau de responsabilité des municipalités a changé. Ça fait qu'on a plus de responsabilités. On est souverain, on peut faire des choses, mais on a des obligations auxquelles on ne peut déroger. Ça fait que les normes, on peut aller chercher des financements, mais il faut se qualifier puis répondre aux normes. Ça alourdit, c'est très, très long, mais on le fait. On y arrive.
C'est fou à quel point on se rend compte qu'on a besoin de subventions pour réaliser toutes ces études-là. Sinon, la municipalité ne serait pas capable de les payer. Mais en même temps, vous demandez de l'argent au gouvernement. Donc, ça vous prend les études pour démontrer qu'effectivement, il y a un besoin à combler. En parlant de subventions, on avait jasé de ça à quelques occasions. Et là, je pense qu'on arrive au dénouement d'une subvention qui vous permet d'aller de l'avant pour un éventuel plan d'urbanisme.
Oui, ça aussi, c'est un contrat. J'ai de la difficulté à dire octroi de contrat. Il faut y aller tranquillement. Octroi de contrat pour la réalisation du plan d'urbanisme qui doit être refait, qui date d'une trentaine d'années. Ce n'est pas l'ordre des choses. C'est des choses qui devraient être mises à jour de façon plus soutenue, plus régulière, sur des délais plus courts, d'aller faire le contrat pour la réalisation du plan d'urbanisme. C'est un gros dossier encore.
Monsieur, madame qui écoute actuellement, pourquoi on a besoin d'un plan d'urbanisme? Rapidement, on va à l'école, 30 secondes. Pourquoi a-t-on besoin d'un plan d'urbanisme?
C'est que il faut que les choses s'arrument les unes dans les autres. Au fil du temps, il y a des modifications dans la réglementation, dans les normes, dans les matériaux, dans toutes sortes de choses. Le plan d'urbanisme, il va tout encadrer ça. Puis, si on peut donner un exemple, quand on vient et on fait des travaux là, présentement, les infrastructures qui passent au travers en traversant en diagonale des lots qui pourraient être construisibles ou qui passent à des endroits pas possibles, il y a une façon de faire les choses. Et quand on vient sur le coup, là, on dit, ben là, c'est pas grave, on va passer là. Oui, mais si dans 10 ans, ce terrain-là, tu viens de l'annuler parce que t'as fait une chose qui était pas correcte, hein? Tu sais, ça fait que c'est toute cette prévisibilité-là de faire un ensemble pour le territoire urbain, là, le secteur urbain. Puis il faut, puis là, je parlais tantôt de matériaux, un plan d'urbanisme avec les règlements qui sont associés, les recouvrements de maisons qui ont changé, qui se sont améliorés au fil des 20, des 10, des 5 dernières années. Si on ne remet pas ça à jour, c'est qu'on interdit à un moment donné de faire une cage en nid de poule parce que c'était de la tôle. Puis aujourd'hui, les tôles qui se vendent sont exceptionnellement de qualité et elles sont belles. Mais tu sais, il faut l'adapter, là. Si autrefois, il y avait juste la tôle qui rouille, aujourd'hui, il y a autre chose. C'est un des exemples des situations qu'il faut qu'ils soient mises à niveau là, par un plan d'urbanisme.
Ça a été un bon premier conseil pour l'année. Il y avait quand même pas mal de sujets. Il n'y a pas une histoire aussi de construction qui s'en vient avec la CEPAC?
Il y a eu un dépôt pour un premier projet de résolution, un PPC moi. C'est la CEPAC qui veut faire une construction dans une zone qui est commerciale. Mais la zone commerciale, elle est enclavée dans une zone résidentielle. Alors, il y a l'auberge, puis il y a le terrain à côté qui lui appartient avec le petit bâtiment, le rouge et blanc.
Ouais.
Fait qu'eux, ils ont, comme aussi par une étude, on a démontré là, les problèmes qu'on a pour le logement. Alors, un employeur comme ça qui veut loger ses employés, puis qui possède un terrain, puis qui a un projet de construction, peut déposer une demande pour qu'il soit analysé. Et ça passe par le comité d'urbanisme qui fait des recommandations. Le, Le conseil municipal prend des décisions en lien avec ça. Puis, il y a tout un procédurier là, qui est bien correct. Mais le PPC moins, il va permettre de dire, ben oui, puis ça détonne pas, puis là, à cause de, puis parce qu'on a besoin. Il peut y avoir des autorisations qui se font en ce sens-là. Ça fait que le processus est commencé pour la demande de la CEPAC de faire trois constructions que chacun logerait 4 employés pour loger 12 personnes.
Sur le terrain en question, le terrain de la petite maison qui descend vers la baie.
Entre Martin-Zédé, là, puis oui, voilà. Meunier, là. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est le premier projet de résolution pour ce projet-là là, qui est en cours.
Ah, c'est des choses qu'on apprend aussi parce que c'est vrai que le zonage, actuellement, on pourrait dire ben c'est facile de construire là, mais en réalité, c'est zoné commercial entouré de domiciliaires.
C'est
donc, ça devient domiciliaire, dans le fond, grâce à cette exception.
Ça change pas le zonage, mais il y a une acceptation avec la procédure, puis avec, et là, c'est une propre étude à l'interne, si on peut dire, puis une démonstration des raisons qui fait qu'on accepte cette... tu sais, c'est pas comme une demande de dérogation, mais ça y ressemble. Parce que pourquoi on autorise, puis en tenant compte de tous les éléments.
Des besoins, puis une certaine logique.
Exact.
Si on se transporte dans le temps, ça va, dans 3-4 ans d'ici, le chemin Meunier va avoir changé quand même, avec les terrains qui ont été vendus, ceux qui pourraient l'être, que vous lotisserez éventuellement, cette création-là aussi, les 3 immeubles dont un où j'habite, ça va avoir changé le secteur pour le mieux, je pense. Comment ça?
Ben, c'est du dynamisme, à un moment donné, on l'a déjà dit, là, le problème de logement, il est vraiment grave. Quand les gens disent « qu'est-ce que vous faites pour ça? » On peut pas, ça je l'avais déjà dit en entrevue, on ne peut pas arriver puis financer. Plusieurs personnes ont dit là, vous pourriez faire des logements à prix modique, mais ça va coûter des millions de dollars. Là, c'est d'aller voir, de mettre en place des terrains, de la vente de terrains pour que des particuliers ou CEPAC ou d'autres là, soient capables de faire eux-mêmes la construction, de faire les financements pour créer le logement.
Ouais.
Fait que donc, cette façon-là qu'on a de mettre à disposition des terrains, c'est notre contribution pour faire le développement qui est nécessaire. Puis quand, à propos des terrains, je veux revenir, il m'a été demandé quelquefois par des gens qui allaient se construire si la municipalité offrait des gratuités ou des diminutions de taxes les premières années pour aider les gens là, qui font de la construction parce que les coûts sont astronomiques. Puis nous, la municipalité, notre aide financière, elle se fait de cette façon-ci, c'est qu'on vend les terrains pour le prix du coûtant. Quand les 11 derniers terrains, on les a vendus 11 000 $ c'est pas les prix de vente de terrains de municipalité actuelles pour des conditions équivalentes. Là.
Non, c'est pas cher par rapport à ce qui se paye ailleurs.
Ben c'est là, nous, qui est notre façon. On le fait pas pour aider à amortir ou à payer des coûts d'exercice financier là, de municipal en faisant profit en vendant plus cher. Nous, notre volonté, le conseil, là, c'est de le vendre au coûtant. C'est notre façon là, de pouvoir aider puis stimuler le développement et la construction.
Notre dernier sujet du jour, vous allez à l'école, en fait, hein, à la découverte de la faisabilité de rendre certains terrains aptes à être développés éventuellement.
On a donné un contrat pour faire une étude financée par notre entente sectorielle sur les coûts, puis les coûts, donc la faisabilité pour faire des infrastructures. Il y a des terrains présentement qui appartiennent à la municipalité qui sont ce que j'appelle au centre-ville. Je donne l'exemple, où est-ce qu'il y avait le château d'autrefois en avant là, du centre d'accueil municipal. Alors, c'est un terrain qui n'a pas d'infrastructure pour être capable de rendre construisible. On est en train de faire une étude pour cet endroit-là, la rue de la Faune. Il y a une couple d'endroits là, qu'on a donné l'étude pour voir quels seraient les coûts. Ça aussi, c'est encore une fois pour rendre des terrains disponibles, mais de quelle façon? Ces terrains-là, si on fait des infrastructures d'eau et d'égout, il peut y avoir des coûts qui sont tellement élevés que ça rendrait la chose inaccessible. Mais pour le savoir, il faut aller voir. Pour aller voir, on donne une étude. Fait que c'est notre volonté de pouvoir aller alimenter là, ces espaces-là avec les infrastructures et permettre la construction. Ça devrait là, arriver bientôt, là. Puis on pourra voir là, qu'est-ce qu'il y en a.
Les coûts sont toujours étonnants. Ben, plus pour vous, là, malgré que parfois, oui encore, mais les coûts sont tellement étonnants. On le voit, la mairesse de Longueuil qui avait fait une sortie il y a un an en disant « remplacer un feu de circulation me coûte 1 million de $, ça n'a aucun bon sens ». Donc, on comprend que des fois, on a l'idée, mais il faut aller valider avant si c'est réalisable financièrement.
Fait qu'on a, c'est ça, on a encore cet exercice-là qui est en cours. Là. On va avoir des résultats bientôt pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça.
Bon, ben voilà, bravo, il y a du travail. L'oisiveté est la mère de tous les vices, donc on veut vous éviter ça.
Non, non, on est à l'abri de l'ennui. Ça, c'est sûr qu'on est très dynamique.
Madame la mairesse, merci beaucoup d'être passée. Les gens apprécient, je suis convaincu, parce qu'on peut assister au conseil, on peut toujours aller voir sur le site web des informations qui en découlent, mais il n'y a rien comme vous entendre, répondre aux questions et nous expliquer ce qu'il y en est pour qu'on se fasse une idée rapidement. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, puis on demeure toujours très ouvert. Si des fois j'ai suscité d'autres questions, mais ça me ferait grand plaisir d'y répondre. Je suis accessible. Moi, je vais au centre-ville tous les jours, comme bien des gens. On passe au centre d'achat, puis on passe à l'épicerie, on se croise souvent.
Merci beaucoup, Hélène.
Ça me fait plaisir, François. À bientôt.
Au revoir. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.